Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. On peut s'acheter la carte d'auditeur pour nous soutenir au 145 rue Amelot, 75011 Paris, métro République Oberkampf ou Fille du Calvaire. Et on peut soutenir la radio aussi en remplissant un bon de souscription en allant sur le site radio-libertaire.net ou bien .org, comme on voudra. Donc, et là, toutes les indications vous seront données si vous voulez donner régulièrement pour la radio. Et l'Entonnoir, vous pouvez nous écrire aussi à la même adresse, 145 rue Amelot, à la même adresse que la carte d'auditeur, donc 75011 Paris, c'est la librairie du Mont Libertaire, émission L'Entonnoir. Et pour commencer, eh bien, un témoignage d'un auditeur un court témoignage de 2 minutes. Et puis, en deuxième partie, la rediffusion d'une émission passée, donc évidemment. La date, je ne l'ai pas précisément, peut-être en 2018 ou peut-être avant. C'est une émission de lecture d'un article de la revue Micru Russe, une émanation d'un groupe qui s'appelait Médecine Libertaire en Normandie, dans le Calvados, et donc qui a produit cette revue Micru Russe que nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Alors, nous écoutons un auditeur qui témoigne, qui a écrit un petit truc, voilà, sur la psychiatrie. Un petit texte qu'il lit, un petit texte évidemment critique. Alors, nous allons l'écouter avec un logiciel, VLC en l'occurrence.
Je reviens au déroulement de ma vie passée. Quand tu es dans un hôpital psychiatrique public, comme cela m'est arrivé quand j'étais jeune, tu te trouves avec la lie. Tu rencontres des êtres d'exception, mais ils sont rares. Tu es gardé par un personnel d'infirmiers et d'infirmières et de médecins psychiatres. Tout cela fonctionnaire et hiérarchisé. Puis tu es assommé par des médicaments psychotropes fournis par les laboratoires pharmaceutiques. Ce sont des distributeurs de médocs. 3. Le système. Quand tu es là-dedans, au bout d'un certain temps, tu ressens en plus de l'angoisse comme une immense fatigue. Et tu ne peux rester debout la journée. Il faut que tu t'allonges sur un plumard. Cela m'est resté cette habitude du Pajot. De plus, tu as l'angoisse de sortir au dehors. Tu t'habitues à être comme dans un cocon, nourri mal et logé, tout cela gratuitement, payé par l'État et la sécurité sociale, comme protégé de la foire d'empoigne, du dehors, de la société et les affreux de l'extérieur. C'est extrêmement délétère et pernicieux. C'est ainsi qu'il y a des gens qui font toute une vie dans ces établissements comme dans le temps. Ils rentrent à peu près normaux, puis avec le cocktail de médoc, deviennent abrutis comme des veaux. Pour s'en sortir, il faut être fort et être jeune et en bonne santé, avoir l'entendement et la raison. À cette époque dont je parle, il y avait aussi des maisons de repos. Ça pouvait être une porte de sortie et une échappée de l'hôpital. Je vous recommande les deux classiques d'un grand philosophe français, Michel Foucault, qui sont « Surveiller, punir, sur l'univers carcéral et d'enfermement, et La folie et l'âge classique sur l'univers asilaire. Ce sont deux ouvrages qui sont souvent cités comme référence par les chercheurs et historiens. Point.
Merci à cet auditeur d'avoir témoigné. Et donc, la rediffusion de cette émission sur Micro Russe, l'article qui va être abordé aujourd'hui, le thème qui va être abordé aujourd'hui, en l'occurrence, ce sera aliénisme. Et ici, aliénisme au pluriel.
Faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineux, ta solution à cause. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine. C'est ça la médecine, je veux la guillotine.
Radio Libertaire, la radio libre de la Fédération anarchiste, ni Dieu ni maître. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme tous les mercredis matins, de 9h30 à 10h30. Émission critique de la psychiatrie avec le générique habituel, la marche lente des éléphants de Berruyer Noir. Et aujourd'hui, au sommaire, je vais vous proposer un peu d'histoire avec un article de la revue Micro Russe contre la médecine et son monde. Micro Russe, donc, que je vais présenter. Cet article sera extrait du volume 2. Micro Russe, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'œuvre d'un collectif, le collectif Médecine Libertaire, qui n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui. Alors, voici par exemple ce qu'il en est dit en première page de la revue, volume 2. Nous fûmes le collectif Médecine Libertaire. Ce collectif fut composé d'individus qui souhaitèrent penser et agir autour de la santé, de la médecine et du corps dans une perspective anarchiste. Pour nous, le système médical est l'un des relais des dominations de classe, de, entre guillemets, race et de genre. La question de la santé pose la question du rapport à la norme et à la normalité que nous voulons subvertir. Dans ce cadre, nous tentâmes de définir des bases théoriques communes pour à la fois penser et lutter contre les travers sinistres du système médical actuel. Ceci passa aussi par la mise en œuvre de pratiques collectives, libératrices et autonomes, afin de se réapproprier nos corps et nos vies. Voilà, c'était un donc, collectif de Normandie, dans le Calvados. Alors, un petit topo aussi sur la revue, l'intention de Micro Russe. À travers Micro Russe, je lis un peu plus loin. Nous avons simplement souhaité penser et faire penser la médecine d'un point de vue libertaire, autant parce que la médecine et le rapport que nous pouvons avoir à nos corps est une porte d'entrée dans le politique des plus conséquentes, que parce que ce thème a été peu exploré dans le courant de la pensée anti-autoritaire de ces dernières années. Notre but ici n'est pas de construire une nouvelle doctrine, mais de rassembler des textes qui peuvent nourrir la réflexion et amener à des actions. Et l'article donc qui nous intéresse ici, donc c'est une revue très riche, hein, qui donne vraiment des objets de réflexion intéressants. Et cet article de Romain Bonnel, qui s'intitule « État et psychiatrie, une histoire d'intérêt commun ». Ce texte traite une période de l'histoire, de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe, de la fin du XVIIIe au milieu du XIXe, et de faits juridiques et biographiques qui peuvent sembler ennuyeux. Ceci étant, il tend à démontrer que la violence psychiatrique que nous subissons aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Cette origine s'explique par des fondements idéologiques, des intérêts et des représentations qui non seulement sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui, mais qui en plus sont, dès le départ, largement condamnables. L'idée est que mieux nous connaîtrons le comment et le pourquoi des oppressions sociales et politiques, plus nous serons à même de les combattre et de les détruire. Par ailleurs, ce texte doit beaucoup à l'ouvrage de l'historienne Jeanne Goldstein, « Consoler et classifier l'essor de la psychiatrie française », édité par les éditions Les Empêcheurs de penser en rond en 1997. Il est également inspiré des travaux de l'historienne Laure Murat, qui a notamment publié « L'homme qui se prenait pour Napoléon » pour une histoire politique de la folie, un livre facilement trouvable en poche. Oui, ici c'est l'entonnoir. Dans un premier temps, il sera question de comprendre, à travers un regard historique et critique, comment est née la psychiatrie qui, avant d'avoir ce nom, s'appelait l'aliénisme. Je lis la note. Le terme psychiatrie, pourtant forgé dès le début 1800 par un médecin allemand, ne fera son apparition en France qu'à partir des années 1840. Pour devenir couramment employé seulement vers la fin du XIXe siècle. Sa signification est simple, puisque psyché en grec renvoie à âme ou esprit, tandis que iatros signifie médecin. Psychiatros. Psychiatrie. Pourtant, malgré cette simplicité, il a longtemps été préféré des synonymes plus longs comme médecine des fous, médecine mentale, puis à partir des années 1830, aliénisme. Il en est de même du terme psychiatre, qui, bien qu'il apparaisse dans un dictionnaire français dès 1802, ne sera usité qu'après la certitude que la psychiatrie soit bel et bien indétrônable, c'est-à-dire début 20e. Alors, en partant de l'institutionnalisation de la médecine, nous verrons sa tendance à la spécialisation qui aboutit rapidement à ce que l'on appelait autrefois la médecine des fous. Il sera ensuite question de comment cette spécialité médicale un peu particulière qu'est la psychiatrie a rapidement pris corps et forme courant au XIXe siècle, courant XIXe siècle. Enfin, ce sont les connivences fortes entre l'État et la corporation médicale qui seront discutées. La psychiatrie, sortant son épingle du jeu dans cette course aux intérêts, parvient à s'imposer notamment grâce à la fameuse loi de 1838. Il est effectivement primordial d'analyser cette construction sociale et politique avant d'évoquer les premières critiques ou les premières révoltes contre cette même psychiatrie ayant eu lieu quelques années après cette fixation professionnelle et étatique. Donc voilà, les bases, fin 18e jusqu'au milieu du 19e. Alors la loi de 1838, je vais pas lire tout l'encadré, je vais juste résumer rapidement. C'est une loi totalisante qui gère et administre la folie et tout ce qui s'y apparente. Elle le fera pendant 152 ans. C'est-à-dire jusqu'en 1990. Et donc, il y a d'abord les établissements, un asile dans chaque département. Cet asile, s'il est public, est placé sous la direction de l'autorité publique, et s'il est privé, est placé sous la surveillance de l'autorité publique. Voilà. Et par ailleurs, il y a le mode d'entrée et de sortie. Donc, les pseudo-placements volontaires, en fait, le consentement du sujet n'est pas nécessaire pour qu'il soit enfermé. Donc, c'est un peu un abus de langage, ce terme de placement volontaire. Et puis, donc, il y a les placements d'office. Les placements d'office, voilà. PO. Bon. Les antécédents de la psychiatrie, les différents modèles politico-médicaux. Avant de se distinguer dans une spécialité médicale à proprement parler, les psychiatres ont d'abord fait partie de la profession médicale qui n'était pas découpée en disciplines spécifiques. Or, il n'est pas envisageable de regarder l'histoire de la psychiatrie sans regarder à minima l'histoire politique de la médecine. Ainsi, trois grands modèles politico-médicaux se confrontaient avant que la psychiatrie se fige en organe de contrôle au service de l'État. Alors, je vais citer les trois modèles. Tout d'abord, le modèle corporatif fait suite à l'organisation corporatiste de la médecine française du XVIIIe siècle, dont la formation était quasi exclusivement théorique. La corporation était le mode d'organisation de la plupart des professions jusqu'en 1789. Elle possédait ses propres règlements. C'est alors le début de la faculté de médecine, du collège de médecine, tout ça avec des majuscules, et autres corporations commerciales qui tendaient à capter et conserver le monopole de l'enseignement du savoir médical et de la délivrance des soins dans un territoire donné. Aussi, pour renforcer la gloire de la médecine dominante que souhaitaient incarner ces institutions, le recours à la censure d'ouvrages était chose courante, et tout conflit d'opinion devait immédiatement prendre fin. En ce qui concerne la pratique, c'est la suite de la chasse aux sorcières, avec les attaques en règle contre toute initiative autonome d'individus qui se sentaient à même de soigner. Indépendantes financièrement, ces corporations médicales n'en demeuraient pas moins hiérarchisées, patriarcales et très attachées à l'État, attachement que la médecine a dû resserrer pour s'assurer que les « entre guillemets charlatans » et autres guérisseurs, en l'occurrence probablement beaucoup de guérisseuses, ne fassent pas d'ombre au monopole qu'elles s'étaient progressivement construites. Deuxième modèle, le modèle étatique, plus récent, prend racine dans la Société royale de médecine fondée à la fin du XVIIIe siècle et première agence d'État en matière de santé. Ce modèle fait concurrence directe au modèle corporatif en mariant instrument de l'État avec la pensée des Lumières. C'est alors le règne de la police de la santé. On l'oublie trop souvent comme cela que s'appelait la politique de santé. La police de santé qui se développera grâce à l'administration publique. En gérant ses besoins élémentaires et son environnement, elle pensait rendre la population nombreuse, productive et contribuable, tout en canalisant ses désirs de révolte. Pour les défenseurs de ce modèle, le médecin ne devait pas se retrouver dans une corporation qui lui permettait d'exercer un art dans une zone géographique délimitée. Il devait appartenir à l'État et faire preuve d'engagement, d'intégrité et de foi en la science médicale. C'est donc un processus de médicalisation qui démarre et dont les buts sont d'amener la médecine dans les campagnes pour supprimer les guérisseuses et guérisseurs, entre guillemets, indépendantes, et insuffler l'hygiénisme en réaction à l'industrialisation polluante et uniformiser les pratiques et la formation des médecins. Et donc, troisième modèle évoqué, troisième modèle de politico-médicaux, politico-médical, qui se confronte avec les deux autres. Le modèle du laisser-faire. Celui-ci renvoie à un courant de pensée économique et politique plus large qui sous-tendait le respect de la propriété légitime et le principe de non-agression. Plus clairement, c'est le libre commerce d'entreprendre, sans régulation ni interventionnisme, d'un pouvoir structuré. Ce mouvement post-révolutionnaire, 1791-1803, fait que l'art de guérir était, par la loi certes, un commerce non régulé et ouvert à toutes et tous. N'importe qui pouvait s'installer pour soigner et était en droit de fixer ses propres tarifs, de créer sa propre école de médecine. Cela devait favoriser l'émergence d'autodidactes qui, après avoir réussi un examen, en se mettant en concurrence, se stimuleraient et baisseraient leurs prix. En 1793, la Société royale de médecine fut abolie, tout comme les universités un an auparavant, en 1793. Donc le modèle du laisser-faire. Ce modèle était soutenu par les sans-culottes qui réclamaient dans une de leurs pétitions, je cite, « une médecine populaire, infiniment préférable et plus certaine que toutes les pratiques souvent erronées de nos médecins ». Alors, je rappelle ce que c'était que les sans-culottes. Les sans-culottes furent un groupe de révolutionnaires radicaux issus du peuple qui revendiquaient une démocratie directe. Ils furent nommés ainsi en lien avec leur refus de porter la culotte qui, au XVIIIe siècle, était le costume ordinaire des nobles et des bourgeois. Reste qu'il fallait tout de même contrôler un minimum les pratiques en les régulant. Il a été évoqué, pour cela, une police de la médecine. Évidemment, ce modèle ne fut relayé par quasiment aucun législateur et perdit rapidement le rapport de force contre les deux autres modèles qui luttèrent encore quelques années avant de voir le courant étatique l'emporter très largement avec la loi de 1803, qui est la loi de la profession médicale et qui ne sera retouchée qu'en 1892. Donc c'est le modèle étatique qui l'emporte sur les deux autres, c'est-à-dire le modèle corporatif et celui du laisser-faire promu par les sans-culottes. Alors, la loi de 1803, qu'est-ce que c'est ? Le général Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir par un coup d'État en 1799. En 1800, il renforce la centralisation administrative en nommant à la tête de chaque département un préfet. La loi du 19 Ventose an 11, qui organisera et structurera les professions médicales en France pour tout le 19e siècle, est donc votée en 1803. L'idée étant de soumettre ces professions, médecins, chirurgiens, sages-femmes, au contrôle de l'État centralisé, ce à quoi, pour diverses raisons, les médecins n'ont quasiment pas protesté. Parallèlement à cette loi, la bureaucratie étatique menait des enquêtes statistiques pour évaluer systématiquement l'étendue du, entre guillemets, charlatanisme en France. Le contenu de cette loi implique la création d'écoles médicales dirigées par l'État et dans lesquelles sont organisés des examens très coûteux permettant l'accès à l'exercice de la médecine. Les femmes n'ont pas le droit de s'y inscrire. Les études durent 4 ans et aboutissent à deux types de grades, un supérieur pour le statut de docteur avec soutenance de thèse et un inférieur pour les officiers de santé qui exercent bien davantage en campagne. La bureaucratie d'État vérifie ensuite les titres et créances des postulants et établit la liste de docteurs certifiés qu'ils souhaitent pratiquer dans une localité de leur choix. Aussi, les tribunaux d'État distribuent des amendes pour pratique illégale de la médecine, les contrevenants étant ensuite attrapés et dénoncés par le personnel administratif de l'État. En s'assurant de la qualification qui était auparavant uniquement vérifiée localement par les pairs, dans les facultés de médecine ou les collèges de chirurgie, En excluant l'accès à l'exercice des professions médicales aux plus démunis et en créant une médecine à deux vitesses, les docteurs pour les riches de la ville et les officiers de santé pour les pauvres de la campagne, l'administration de l'Empire cristallise, contrôle et autoritarisme, rendant les médecins davantage soumis et dépendants. Ces derniers deviennent alors des interlocuteurs privilégiés de l'autorité publique, honorés d'une confiance officielle qu'ils ont d'ailleurs généralement sollicitée. Ils se plient aux contraintes de leur mission consultative ou active, que ce soit en lien avec les commissions municipales ou les dispositifs préfectoraux, sans élever d'exigences pécuniaires excessives. Pour simplifier, disons que les uns y gagnent de l'argent et les autres de la considération. Cette loi de police médicale prépare le terrain aux parasites que sont la médicalisation du peuple et l'hygiénisme social. Elle prépare dans les mentalités une transformation profonde. L'accoutumance progressive des corps au recours de la médecine et de la pharmacie, ainsi qu'aux précautions hygiénistes, dépistage, prévention, gestion des risques, etc. Voilà, ça c'est la fin de l'encadré concernant la loi de 1803. Il convient donc de garder à l'esprit la place prépondérante de l'État dans le modèle français de la profession médicale au XIXe siècle et son corollaire, la continuité des traditions d'ancien régime de police de santé au moment d'analyser la naissance de la psychiatrie. Ce n'est qu'à partir de 1830-1840 qu'en lien avec la tradition artisanale, la spécialité médicale apparaît en tant que telle. Les médecins des fous, entre guillemets, s'inscrivent donc dans un mouvement plus large de spécialisation de la médecine avec l'apparition des oculistes itinérants, des lithotomistes, des réducteurs d'Hernie, etc. Même l'instauration d'un asile spécialisé dans tous les départements n'était pas chose nouvelle puisque l'idée avait été soumise au gouvernement au début du XIXe siècle à propos des cliniques ophtalmologiques. La profession de psychiatre. Comment faire corporation ? La psychiatrie française s'est donc professionnalisée en même temps qu'elle s'est bureaucratisée et sécularisée. Pour s'imposer dans le paysage social comme spécialité, la discipline doit engager des luttes sur plusieurs fronts. Toutes seront victorieuses et permettront son hégémonie. Il y aurait un consensus sociologique pour dire qu'une profession est formée à partir du moment où elle regroupe différents critères. Alors, les différents critères, là, ils sont au nombre de 4. Un corpus de connaissances partagé au sein de la profession d'aliéniste. Donc là, ça, c'est la, comment dire, la reconnaissance d'une profession par ceux qui la pratiquent. Un monopole, hein, donc là, oui, il faut un espace, un large espace pour exercer. Une autonomie ou un contrôle de la profession sur son travail. Et un idéal professionnel. Alors je vais entrer dans le détail de ces 4 critères qui font consensus sociologique pour dire qu'une profession est formée. Un corpus de connaissances partagées au sein de la profession d'aliéniste. Dès 1798, avec son ouvrage Nosographie philosophique, Philippe Pinel, 1745-1826, qui est considéré comme le père de la psychiatrie moderne, propose une classification des maladies mentales. C'est le début du diagnostic en psychiatrie. On cherche à mettre des individualités dans des cases étroites, rigides et bien carrées. puisque la majorité du temps, personne ne rentre franchement dans ces cases, on va les forcer à coups de suggestions, de contraintes ou d'exagérations, et on va les maltraiter en fonction. Cette tentative de classification ne s'arrêtera plus et s'intensifiera. Pris dans un mouvement plus large de physiologisme matérialiste et d'anticléricalisme, les psychiatres de l'époque localisent la folie dans les organes et vont disséquer des cervelles à tout va. Peut-être un peu trop salissant, mais surtout ne donnant aucun résultat probant, certains d'entre eux vont se tourner vers la phrénologie, qui consiste à dire, en fonction de la forme du crâne, de quoi est atteint psychiquement le sujet. Tous ne mordront pas à cette mode qui bat son plein dans les années 1830, mais il est bon de savoir que certains adeptes joueront un rôle important en termes politiques, puisqu'ils participeront directement à l'élaboration de la loi de 1838. Puis ce fut le courant spiritualiste, une forme de psychologie philosophique qui prit de l'ampleur une fois que les dissections et la théorie des bosses des crânes furent épuisées. À partir de 1850, c'était la mode de la dégénérescence. Renouvelant sans cesse le corpus pseudo-scientifique, les psychiatres élaborent la folie héréditaire et cherche à classer les maladies en fonction de leur cause. Il faut donc tordre le cou au nouveau fléau social qu'est le dégénéré, qui risque de gangréner tout le corps social. Cela se remplit et se nourrit dans un même mouvement d'hygiénisme, voire d'eugénisme. Quant aux thérapeutiques utilisées, celles-ci suivent globalement les pensées diagnostiques. Plus la maladie est considérée comme un mal, plus le traitement doit redresser brutalement l'individu pour le remettre dans le bien et la norme. Outre les techniques de manipulation, les traitements à base d'eau et de contention ont produit des écrits et des pratiques malheureusement devenues habituelles et massives. Ce type de, entre guillemets, connaissance a également fait couler beaucoup d'encre, tout en imposant une maltraitance horrible sur les corps. Il serait trop long, alors je lis la note, hein. Il serait trop long de revenir sur les, entre guillemets, traitements imposés aux psychiatrisés au cours de l'histoire. En revanche, je ne peux m'empêcher, dit l'auteur romain, de renvoyer à l'excellent ouvrage passé aux oubliettes de Bernard de Fréminville, « La raison du plus fort, traiter ou maltraiter les fous ?» Point d'interrogation. Publié en 1977, ce travail de thèse de cet ancien psychiatre, il a changé de profession assez rapidement et on peut le comprendre vu la justesse et la puissance des propos de son livre, fait entre autres un inventaire de tous les moyens ayant existé officiellement afin de calmer les fous. Incontournable. Bon, nous avions fait deux émissions autour de ce livre. On pourrait aussi, effectivement, entrer dans les détails de ces pratiques des aliénistes dans les asiles. Alors ça, c'est le premier critère, hein, la connaissance qui permet de reconnaître la profession. Deuxième critère, un monopole. Pour accéder au monopole de la prise en charge des aliénés, il a fallu chasser les religieux qui, pendant des siècles et des siècles, s'étaient octroyés cette faveur. En leur piquant quelques recettes et en les transformant habilement, cela assura aux psychiatres un certain succès et une notoriété évidente. Le pardon et la consolation transformés en, entre guillemets, traitement moral. La réclusion transformé en isolement thérapeutique, etc. La monomanie homicide a été une maladie créée par Esquirol. Il écrivait qu'il s'agissait d'un délire partiel caractérisé par une impulsion plus ou moins violente au meurtre. Elle fut défendue contre les magistrats, qui s'opposait à l'extension de l'irresponsabilité des criminels et du même coup qui s'opposait à l'extension de la psychiatrie médico-légale. entre 1824 et 1830, des affaires célèbres ont été le prétexte de grandes discussions entre les experts médicaux et les juges, qui restaient très réticents devant le diagnostic de monomanie homicide largement utilisé par les psychiatres. 20 ans plus tard, la doctrine de la monomanie homicide allait connaître son déclin pour finir par complètement disparaître. Mais entre-temps, et grâce à elle, la psychiatrie médico-légale s'était définitivement imposée dans les prétoires. Aussi, avec l'invention d'un concept soi-disant scientifique et rationalisé en maladie mentale que seul l'expert psychiatre peut diagnostiquer, l'utilité indispensable de la psychiatrie auprès de la magistrature a pu s'imposer définitivement. La drague des législateurs et des politiciens était aussi un des objectifs des tenants de la psychiatrie. Il fallait leur assurer l'utilité des psychiatres qui pourront dire, grâce au progrès de la science, qui est véritablement fou, dangereux, malade ou condamnable. Tout en administrant davantage la gestion de la folie, les gouvernements pensaient bien garantir une plus grande tranquillité publique, faire des économies et se doter d'une image humaniste. La création des asiles a en partie permis tout cela en fixant les insensés potentiellement troublants et en faisant croire que les retirer de leur milieu naturel, entre guillemets, les guérirait. Troisième critère, une autonomie ou un contrôle de la profession sur son travail. Jean-Étienne Dominique Esquirol, 1772-1840, monarchiste, catholique et franc-maçon, a marqué son nom dans l'histoire parce qu'il a bataillé des années pour qu'une loi soit votée et assure l'autonomie et la reconnaissance de la psychiatrie. C'est bien sûr la loi de 1838 qui porte aussi parfois son nom. Ce grand bourgeois n'a eu de cesse de se rapprocher des hommes d'État pour les convaincre de la nécessité d'un appareil législatif incontournable et totalitaire. La construction des cercles comportant des disciples regroupés autour de patrons comme Philippe Pinel ou Jean-Étienne Esquirol permirent à la fois un contrôle optimal des jeunes médecins qui, pour trouver un poste lucratif, avaient tout intérêt à défendre la parole de leur maître dans le but de favoriser la légitimité du pouvoir psychiatrique naissant. Mais le contrôle de la profession sur son travail implique également de définir qui est légitime d'exercer. Si tout au long du XIXe siècle on parlait de cette poignée d'hommes en disant d'eux qu'ils étaient les médecins des fous ou les médecins aliénistes, c'est bien parce qu'il n'y avait que le sexe masculin qui pouvait pratiquer la médecine. Les toutes premières femmes à obtenir le diplôme de médecine sont Elizabeth Garrett Anderson et Madeleine Bress, respectivement en 1870 et 1875. La médecine en général est empreinte d'un sexisme féroce et la première femme psychiatre en France fut Madeleine Pelletier, une, je cite, « féministe intégrale », fin de citation, extrêmement politisée, qui a terminé sa vie dans un asile. Voilà ce que dit le Métron en ligne sur son accès à la profession de psychiatre et sur la fin de sa vie. Elle voulut concourir pour l'internat des asiles d'aliénés, mais l'entrée lui fut refusée, un règlement exigeant que le candidat ait ses droits politiques. En 1904, une campagne de presse organisée en sa faveur par quelques journaux, dont la Fronde de Marguerite Durand, lui permit de devenir la première femme interne des asiles et de surcroît célèbre. La pratique de la médecine lui apporta des déceptions. À l'asile, les internes lui firent une guerre incessante. Les infirmières regardèrent, je cite, « ahuri cette bête étrange qu'était une femme interne en médecine comme les hommes ». Et dans son cabinet, elle attendit en vain les clients. Elle fut persécutée pour son apparence jugée scandaleuse. Cheveux courts et vêtements masculins qu'elle porta toute sa vie en théorisant sa masculinisation. « Mon costume dit à l'homme, je suis ton égal. » en 1939, alors âgée de 65 ans, la police découvrit à la suite d'une dénonciation qu'elle pratiquait des avortements. Jugée au nom de la loi scélérate de 1920, elle fut convaincue de crime d'avortement. En raison de son état de santé, une hémiplégie qui ne laissait aucun espoir de guérison, elle fut enfermée dans l'asile de Vaucluse où elle mourut. Alors, quatrième critère pour reconnaître la reconnaissance de cette profession de psychiatre, pour faire corporation en tant que corpus, oui, pour faire corpus en fait, dans le cadre pour la naissance d'une stabilité, quoi, en fait, il fallait aussi un idéal professionnel. Alors, après la loi de 1838, une organisation plus formelle et l'institutionnalisation de l'enseignement psychiatrique ont contribué à renforcer la professionnalisation de la psychiatrie en lui permettant de travailler son développement ainsi que son idéal de pouvoir curatif et gestionnaire. En 1852, la Société médico-psychologique, créée par une poignée de médecins aliénistes, se trouve être un des tout premiers regroupements corporatifs de médecins, puisqu'une association nationale des médecins ne verra le jour que 6 ans plus tard. Il s'agissait autant de discuter des problèmes médicaux pour, entre guillemets, faire progresser la science, que du mandat social qui avait été mis en avant pour faire reconnaître la nécessité de la profession aux yeux de l'élite et du peuple. Quant à l'enseignement, il est évident qu'il était important de le développer pour perpétuer la jeune spécialité. Vers 1850, les cours ont donc lieu à la fois au sein des asiles ainsi qu'à l'école pratique de médecine qui dépendait de la faculté. Progrès et découvertes scientifiques avec fantasmes de guérison, mise à l'écart du pouvoir religieux, reconnaissance par le gouvernement en place, mainmise sur les petites gens, valorisation sociale, conditions matérielles confortables à l'intérieur des asiles, voilà donc à quoi les défenseurs de la profession de psychiatre croyaient et aspiraient. Alors, on passe au troisième chapitre de cet article, Psychiatrie et État, ou comment le médecin éclaire le gouvernement. C'est une citation. La psychiatrie est une machine politique qui a très bien intégré dans son fonctionnement et son développement l'appareil d'État. D'une manière générale, l'aliéniste a toujours préféré le côté étatique plutôt que le pôle libéral soumis à l'économie de marché. C'est pourquoi les moyens utilisés par les psychiatres du XIXe siècle sont assez révélateurs des intentions des principaux militants. Car il ne faut pas s'y méprendre, il s'agissait de véritables militants qui, soudés et stratèges, ont dépensé une énergie folle pour se rapprocher des gens de pouvoir afin de parvenir à leur fin. Cette fin était d'obtenir la reconnaissance, la légitimité et le monopole total sur la gestion de la folie, qui devenait trop gênante pour la morale et les intérêts de la classe dominante de l'époque. Époque qui, rappelons-le, marque le début de l'industrialisation de la France et porte un nouvel essor de la colonisation française. Afrique, Asie, Océanie. L'alliance entre l'appareil politique et la médecine mentale se solidifie en lien avec des soucis financiers. Le problème avec les pauvres psychiatrisés, ce n'est pas seulement que ces personnes effraient, c'est aussi qu'elles coûtent toujours trop cher pour les gouvernants. Dès 1835, le gouvernement confie alors à un aliéniste la direction d'un organisme ministériel nouvellement créé qui permet, un an plus tard et pour la première fois, que les aliénés figurent dans une loi de finances. La loi de 1838 fait directement suite à la théorie de l'isolement proposée par Esquirol en 1832. Elle consiste à sortir les individus de leur milieu habituel pour les isoler dans des lieux clos et sordides, ce qui plaît bien au gouvernement qui cherche depuis toujours à se débarrasser des déviants et indigents d'une manière la plus discrète possible. Cette théorie offrait donc un parfait soutien médico-scientifique à la préoccupation policière du gouvernement, à sa volonté d'en finir avec la menace que représentaient pour l'ordre social toutes les formes de déviance non contrôlée des classes inférieures. Pour les riches, il y avait des maisons de santé privées. Et puis, elle permettait de concentrer l'exercice de la psychiatrie dans des lieux bien définis, où le médecin peut facilement régner en maître, et où le sujet psychiatrisé devra changer toute sa manière de vivre. Bien sûr, ce tournant majeur que constitue cette loi et ses applications s'inscrit dans une suite de tentatives de gestion de la folie qui, de tout temps, contient déconsidération, maltraitance et violence. La plus remarquable et qui inspirera directement Esquirol est la rédaction d'une brochure de 44 pages par un chirurgien militaire, Jean Colombier, commandé par Louis XVI. Instruction de 1785 sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. Aliénés et prisonniers ne devaient plus être enfermés dans les mêmes lieux. L'instruction fut diffusée dans tout le royaume, mais toujours aujourd'hui, la, entre guillemets, cohabitation reste présente. Pour faire passer la loi de 1838, il a fallu qu'elle soit portée par quelques individus sur lesquels il semble fondamental de s'arrêter. Car, bien qu'elle ait été discutée pendant 18 mois, elle n'a en fait pas intéressé grand nombre de députés, puisqu'à plusieurs reprises, ils ne furent pas assez nombreux pour procéder au vote des articles. Qui étaient donc ces individus qui tenaient tant à ce que les pauvres fous soient mis à l'abri et protégés des affres que comportent les relations sociales ? Tout d'abord, une alliance entre les aliénistes du cercle d'Esquirol et le mouvement politique des libéraux doctrinaires a vu le jour au début du XIXe siècle pour défendre des idées communes concernant l'administration du vivant. Il est bon de préciser que les doctrinaires étaient des royalistes, rigides et sectaires, qui défendaient une monarchie constitutionnelle. Leur objet était de, entre guillemets, nationaliser la monarchie et royaliser la France. Ils défendaient un maintien de l'ordre social en passant par la vitalité de la religion, une certaine forme d'humanisme et un dévouement à la cause des faibles et des égarés. Les noms les plus connus sont François Guizot, qui fut ministre sous la monarchie de Juillet 1830-1848, et Pierre-Paul Royer-Collard, frère de l'aliéniste Antoine Athanase Royer-Collard, médecin-chef de l'asile de Charenton et bourreau d'un certain marquis de Sade. Pour avoir un aperçu de la prise en charge qu'a subi Sade, vous pouvez regarder le film Kills, Q-U-I-2-L-S, La plume et le sang de Philippe Kaufmann. Un film de 2000. Il faut également souligner la solidarité du corps médical qui rendait tous les députés médecins défenseurs de cette loi. C'est d'ailleurs la seule vraie coalition politique qui se distinguait lors des débats qui ont précédé la loi. Et oui, quand on est à la fois médecin et député, ça facilite les choses. Enfin, certains personnages adhérents ou sympathisants de la société de morale chrétienne s'inscriront fortement dans la promotion de la loi défendant coûte que coûte la bienfaisance publique grâce à un autoritarisme brutal. Alors, certains personnages, arrêtons-nous de plus près sur certains d'entre eux. Adrien de Gasparin était préfet de Lyon quand éclata l'insurrection des Canuts en avril 1834 à Lyon. Il la massacra dans le sang, presque 200 morts du côté insurgé, ce qui lui permit d'être promu ministre de l'Intérieur presque aussitôt et de présenter la loi en 1837. Il insista pour que les mesures d'isolement se fassent rapidement, avec prudence et discrétion. C'est pourquoi il favorisa le pouvoir administratif, les préfets qui peuvent décider de l'enfermement en asile, au pouvoir judiciaire, comme cela s'est construit dans la majeure partie des autres pays occidentaux. C'était un ami intime de François Guizot. Alexandre François Vivien, après s'être orienté vers une carrière militaire, devint avocat. Par la suite, il accéda à la préfecture de police en 1831, d'où il réprima violemment de nombreuses émeutes. Jules Dufour fut un proche collaborateur d'Adolphe Thiers à l'époque où est votée la loi de 1838. Il deviendra ministre de l'Intérieur sous le règne de Louis-Napoléon Bonaparte. En 1871, il sera nommé par Adolphe Thiers, ministre de la Justice, et organisera la répression juridique de la Commune. Le même Adolphe Thiers, en tant que ministre de l'Intérieur, commanda le carnage des Canuts en 1834, cité plus haut, et surtout extermina la Commune de Paris et exécuta le maximum de communards, alors qu'il était chef du pouvoir exécutif de la République française. Camille Bachasson, comte de Montalivet, était ministre de l'Intérieur lorsque fut votée la loi. Ce dernier était un fervent partisan du roi Louis-Philippe, avec lequel il était très proche, au point d'en être l'exécuteur testamentaire et de le défendre même après sa mort. Mais comme tout bon politicien, il a su s'adapter au changement de régime pour se rapprocher du pouvoir républicain conservateur qu'Adolphe Thiers incarnait. Camille Bachasson était le second fils de Jean-Pierre Bachasson, qui fut lui aussi ministre de l'Intérieur sous Napoléon et qui savait lui aussi traiter la question de la folie, comme en témoignent ses directives datant de 1810. Je cite... Considérant que le sieur de Sade est atteint de la plus dangereuse des folies, que ses communications avec les autres habitués de la maison offrent des dangers incalculables, que ses écrits ne sont pas moins insensés que ses paroles et sa conduite, il sera placé dans un local entièrement séparé, de manière que toute communication lui soit interdite sous quelque prétexte que ce soit. On aura le plus grand soin de lui interdire tout usage de crayons, d'encre, de plumes et de papier. Avec la loi de 1838, c'est donc à des médecins que l'on demande s'il faut enfermer un individu et si celles et ceux que le pouvoir administratif a capturés parce qu'elles ou ils compromettaient l'ordre public doivent rester séquestrés. Les médecins de l'époque étaient considérés comme hommes de science, mais la science a toujours été idéologique, même lorsqu'elle prétend le contraire, et toute l'histoire de la traite des fous le montre. Le médecin aliéniste est donc d'emblée confronté à la difficulté de concilier sa vocation thérapeutique et la fonction politique qui le lie au pouvoir étatique en place. Un pouvoir étatique soucieux du maintien de l'ordre et de ses privilèges, est contraint de, entre guillemets, protéger la société contre les débordements de quelques violences inhérentes à toute forme d'organisation sociale inégalitaire. Les aliénistes ont participé à un dispositif gouvernemental de contrôle et de répression coulé dans la morale chrétienne et autoritaire du siècle dans lequel ils vivaient. Et pour cela, toutes les compositions politiques ont été bonnes à prendre, et tous les courants de la pensée et de tous les courants de pensée idéologico-scientifiques ont été portés. peu importait que cela engendrait sur les individus les plus vulnérables, à partir du moment où cela permettait la cristallisation de cette nouvelle profession qu'est devenue la psychiatrie. Que certains attribuent la naissance de la psychiatrie en réponse à un problème strictement légaliste posé par la révolution bourgeoise, à savoir comment justifier l'incarcération dans une société idéologiquement engagée à fonctionner sur un modèle contractuel et à maintenir l'intérêt des puissants, semble largement se comprendre. Qu'il y en ait d'autres qui tentent de décrire sa naissance en la présentant simplement sous un jour idéaliste et un aspect bénéfique, paraît sacrément naïf, voire dégueulassement hypocrite. En tout cas, il est certain que les interprétations sont divergentes. De cette psychiatrie, on lui reproche un autoritarisme et une rationalisation morbide, on lui accorde des intentions progressistes et humanistes, on lui attribue des valeurs bienfaitrices et philanthropiques, on lui prête des desseins manipulateurs et gestionnaires. On comprend alors pourquoi on dit d'elle qu'elle est ambiguë. Et c'est bien ça le problème, car la psychiatrie peut être comprise dans deux sens. Et ces deux sens ne défendent pas forcément les mêmes intérêts ni les mêmes visions du monde et de la vie. Ceci étant, il serait alors bienvenu que celles et ceux qui veulent continuer, voire améliorer ou transformer la psychiatrie moderne, nous présentent avant toute chose leurs intérêts et leurs idées. Car on ne fait pas de la traite des fous, entre guillemets traite des fous, une pratique, une science ou une discipline en dehors de la morale et de l'idéologie. On fait d'abord de la morale et de l'idéologie, sous-entendu la majeure partie du temps. On répond aux critères moraux et idéologiques dominants, sans forcément s'en rendre compte. Et ensuite, on gère la folie. D'autres disent qu'elle est par essence paradoxale. Or, un paradoxe est par définition une idée allant contre le sens commun. Cela signifierait-il que la psychiatrie, dans ses moyens et ses agissements, va à l'encontre de ce que le sens commun nous dirait de faire pour les plus bizarres ? Mais le sens commun se modifie en fonction des normes et valeurs présentes dans un groupe humain et ne signifie pas grand-chose en tant que tel, si ce n'est qu'il répond lui aussi à des éléments psychosociaux profonds et bien souvent irrationnels, comme les croyances, les mythes ou encore tout un tas de chimères qui nous traversent. Toujours est-il que les passions déchaînées sur cet objet clivant ne l'ont pas empêché d'asseoir sa domination sociale au point d'étendre son champ d'application sur tous les sujets, au sein de toutes les couches sociales et dans tous les interstices de la société industrielle. Alors, il est prévu, éventuellement par l'auteur de cet article « État et psychiatrie, une histoire d'intérêt commun », Romain Bonnel, qu'il y aurait une suite. Pour que nous puissions voir comment le sens commun dénonçait, critiquait, voire luttait dès la deuxième moitié du XIXe siècle contre cette machinerie. Mais, bien sûr, on n'est pas certain que cela soit publié encore et qu'il y ait un Micrurus numéro 3. Tout cela est incertain, mais nous le souhaitons. Voilà, c'était un extrait de Micrurus, volume 2, un article. Ainsi se termine l'entonnoir. Nous vous disons à la semaine prochaine, et on finit avec un morceau de Princesse Napalm. Voilà, c'était donc une rediffusion et on va écouter maintenant la suite des programmes de Radio Libertaire. Nous vous disons au revoir et bonne écoute de Un rayon de soleil, l'émission de Radio Libertaire Méditerranée.